Donc, quand Pasteur m'a demandé il y a une semaine, Pasteur m'a demandé si je voulais partager cet après-midi avec vous, j'ai commencé à réfléchir et ça m'a ramené à la saison qu'on est en train de traverser en ce moment même, cette saison assez particulière. On est resté en confinement 2 mois, 2 mois et demi, je sais plus, 2 mois au moins. Chacun l'a vécu de manière à sa manière. Il y en a qui ont traversé de grandes difficultés et puis d'autres, ben, ça dépendait. Certains ont perdu leur travail, certains ont été au chômage partiel. Mais nous qui sommes croyants, on a une espérance et Dieu merci pour ça. Et ce temps nous a obligés la plupart d'entre nous, je crois, nous a obligés à nous arrêter et à réfléchir, à penser. En parlant avec des amis, des contacts, des collègues, il y en a qui ont profité de ce moment pour faire du ménage dans leur vie. Quand je dis ménage, c'est du rangement chez eux, du tri de papier, des travaux qui traînaient depuis longtemps. Personnellement, moi, j'en ai profité pour faire beaucoup de trucs dans mes papiers. Je suis contente pour ça. J'en ai profité aussi pour appeler des amis de longue date parce que j'avais pas le temps en temps normal et j'en ai profité pour faire ça. Donc, quelque part, ça a été bénéfique aussi si on a su tirer un profit de ce moment-là. La première semaine, je me suis dit, Seigneur Dieu, j'ai trop de temps, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ce temps? Et petit à petit, j'ai trouvé à faire. Ce qui était bien, une des choses que j'ai beaucoup aimé, c'est tous les partages qu'il y a eu aussi. Donc là, je pense au lien de l'amour. Donc c'était super aussi d'avoir tous ces partages, des partages de chants, de dévotion, des partages de vidéos sur, parce qu'on avait du temps pour communier tous ensemble comme ça et c'était un temps très riche. C'était tout simplement super de se sentir faire partie du corps du Christ, de pouvoir partager comme ça tous ensemble en famille aussi. Donc je pense que c'est un temps de grâce que Dieu nous a donné. Dans les différents messages qu'on a écoutés, souvent, il y avait cette expression qui revenait, viens à l'écart. À plusieurs reprises, beaucoup de prédicateurs ont utilisé ce terme. Pasteur Chaleur a parlé d'un time out, ce qui veut dire un temps d'arrêt, une pause. À l'image, par exemple, quand il y a une équipe de sport qui est en train de jouer, qui doit faire une pause, s'arrêter, réfléchir à une nouvelle stratégie, une meilleure stratégie. Pasteur Texier a parlé de temps de remise en question, de réflexion. Et beaucoup ont parlé aussi de Shabbat. Et on sait qu'un Shabbat, Shabbat représente cette septième journée. Dieu a créé créé le monde en 6 jours et le septième jour s'est reposé. Et dans la Bible, on voit tout le temps cette idée qui revient où Dieu donne vraiment une importance assez particulière au Shabbat, le fait de s'asseoir, se reposer et puis réfléchir. Et un autre aspect auquel j'ai pensé pendant cette saison, ça m'a fait penser à Noé. Au temps de Noé, les gens vivaient, ils faisaient leur vie, ils avaient des projets. Dieu a demandé à Noé de les avertir qu'il y avait un déluge qui arrivait et les gens ont écouté d'une oreille distraite. Donc, ils entendaient sans entendre. Et dans le monde où on est aujourd'hui, c'est la même situation. Et Jésus l'a dit, ça se passera encore comme au temps de Noé. C'est exactement ce qui s'est passé du jour au lendemain. Tout s'est arrêté, personne n'a vu venir. Et pourtant, on en a entendu parler. On a entendu parler de la Chine, mais nous ne sommes que humains. Personne aurait imaginé que ça irait jusqu'à ce point-là, aussi loin. Et on s'est fait tous surprendre. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit exactement les mêmes avertissements. Dieu a pris soin de nous enseigner, soin de nous indiquer, soin. Il nous aime, nous qui sommes ses enfants. Donc, il prend vraiment soin dans toute la Bible de nous indiquer, de nous donner des signes. Pour qu'on puisse se préparer, pour qu'on sache où on en est dans le temps. Et là, je pense que Dieu nous a vraiment donné un temps aussi pour de réflexion. Donc moi, cet après-midi, ce que je voudrais partager, c'est vraiment ma réflexion personnelle, ce temps m'a amené à penser par rapport à ma vie avec Dieu surtout. Donc je l'ai titré ce que Dieu rêve pour nous. Dieu a un rêve pour nous qui sommes ses enfants. Et cet après-midi, la question c'est quel est ce rêve pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu qui marchons avec lui. Souvent, on entend cette expression où on entend l'expression les parents. Hein, on dit souvent que les parents ont des rêves pour leurs enfants parce qu'ils veulent leur bien, ils veulent un avenir pour leurs enfants. Mais notre Dieu qui est notre Père, lui aussi, il a un rêve pour nous. Nous sommes ses enfants et il a une stratégie, il a une pensée, il a un plan, il a une volonté, il a des choses qu'il a établies pour nous. Et surtout, c'est pour notre bien-être. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est quelles sont ces choses qui tiennent au cœur de Dieu? Comment est-ce que Dieu voit notre vie? Quel est son rêve pour nous? Quelle est son attente envers nous? Et je suis sûre que si on faisait le tour de chacune d'entre nous, on aurait des réponses diverses et variées, selon notre vécu, selon nos expériences. Chacun aurait une réponse à apporter. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Et en regardant, en tournant les pages de la Bible, en réfléchissant, la seule chose qui ressort, c'est que vraiment ce que Dieu voudrait pour nous, c'est notre croissance spirituelle. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « Je veux que ton âme prospère ». Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. C'est vraiment que notre âme prospère, mais prospère de quelle manière? Dieu voudrait qu'on porte des fruits. Dieu nous sommes déjà sauvés, donc on n'a plus rien à faire pour notre salut, nous lui appartenons. C'est acquis. Mais par contre, et il y a autre chose aussi, Dieu nous a déjà préparé un avenir. Nous savons où nous allons, les cieux nous attendent, mais aujourd'hui, là, maintenant, notre vie sur terre, qu'est-ce que Dieu voudrait pour nous? En tant qu'un père aimant, qui veut le bien de ses enfants, qu'est-ce que Dieu voudrait pour nous? On va définir, je vais parler un peu de ce fruit que Dieu, cette attente de Dieu, mais on va le définir vers la fin de cette étude biblique, mais surtout, on va avoir deux éléments essentiels qui sont importants si on veut porter du fruit ou marcher ou accomplir ce rêve que Dieu a pour nous. Et pour illustrer cette étude, j'ai apporté une grappe de raisin qui vraiment, je pense, représente nos vies et ce que Dieu, la manière dont le regard que Dieu a sur nos vies. Dieu voudrait qu'on ait des vies qui soient fructueuses. Des vies où les gens peuvent tendre leurs mains, prendre des graines et manger, que les gens puissent nous toucher et être nourris. C'est ce que Dieu voudrait pour nous. Donc nous sommes appelés à être ces grappes de fruits, des grappes de raisins. Quand les gens nous voient dans notre sillage, partout où nous allons, qu'on soit que notre vie soit nourrissante pour tous ceux qui sont autour de nous. Deux choses essentielles avant de pouvoir porter ces fruits-là. Parce que quand on dit, quand on pense fruit, avoir une vie fructueuse, on pense tout de suite à produire des fruits. Mais Dieu ne nous demande pas de produire des fruits. Dieu ne nous demande jamais de produire. On n'a aucune capacité de produire des fruits. Ce que Dieu voudrait pour nous, c'est surtout qu'on puisse être en relation avec lui, qu'on puisse être assuré, convaincu de son amour pour nous. Parce que sans cette conviction-là, on n'aura jamais la capacité de produire du fruit, de porter du fruit. Donc, la chose essentielle, il y a deux choses essentielles. La première, c'est vraiment être assuré, être convaincu de l'amour que Dieu a pour nous. Et on va lire un passage dans le Cantique des Cantiques pour illustrer cela. Marie-France, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais lire Cantique des Cantiques 4? Versets 13 à 15, s'il te plaît.
Alors, 13 à 15. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec des fruits les plus excellents, les troènes avec le nard. le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamone, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine, des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban.
J'ai lu jusqu'au verset 16.
Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents.
Merci beaucoup. Donc voilà un beau test du Cantique des Cantiques qui est très explicite, hein. La manière dont Dieu nous voit, le regard qu'il a sur nous, il voit déjà ses fruits. Là, la bien-aimée est décrite dans ce passage comme un jardin qui est déjà abondant en fruits. Et c'est exactement ce que Dieu voudrait pour nous. Et n'oublions pas, nous sommes la bien-aimée de Dieu. Nous représentons cette bien-aimée-là qui est décrite dans ce livre, le Cantique des Cantiques. C'est un des plus beaux livres de la Bible. Et ça décrit vraiment la relation qu'il y a entre Dieu et nous. Cette relation d'amour que Dieu voudrait vivre avec nous. Et dans ce livre, on voit cette jeune femme qui a du mal au début, qui a du mal à se laisser saisir, à se laisser aimer, à croire dans cet amour parce que ça paraît trop beau, ça paraissait trop beau. Et donc on voit ce jeu dans les chapitres, dans ces quelques chapitres du livre des Cantiques des Cantiques où on voit le bien-aimé qui loue cette jeune femme qui lui dit tu es merveilleuse, tu es belle. Et c'est exactement ce genre de relation que Dieu voudrait établir avec nous. Donc, c'est vrai, Dieu veut qu'on porte des fruits, mais la première chose qu'il voudrait, c'est qu'on soit convaincu que nous sommes aimés par lui. Et des fois, on a du mal. On a du mal à cause de notre quotidien, à cause de tous les problèmes qu'on rencontre, à cause de nos incapacités, hein, à cause de nos aptitudes limitées, des fois intellectuelles ou physiques. Mais ça ne devrait pas être une raison. Parce que c'est pas ça qui motive Dieu pour nous aimer. Dieu nous aime, point. Et c'est bien de temps en temps d'aller dans ce livre et de voir la manière dont Dieu décrit l'amour, cet amour-là. Dans le texte que Marie-France vient de lire, on voit quelques expressions que je vais reprendre. On voit grenadier aux fruits les meilleurs, donc c'est vraiment top top, les meilleurs fruits. Toutes sortes d'arbres à encens. La source des jardins, un puits d'eau vive, souffler sur mon jardin et que ces aromates se diffusent. Donc ça, c'est exactement ce que Dieu voudrait pour moi. Que ce parfum comme ça se répande autour de nous, que les gens nous voient et disent, ou juste les gens passent du temps avec nous, sont là et disent, et ça les amène à réfléchir, tiens, il y a quelque chose là, non, avec cette personne, il y a un beau fruit là que je peux cueillir, je peux m'en nourrir. Nous sommes la bien-aimée de Dieu et c'est ce qu'il désire pour nous. Et il a un plan pour ça. Il va nous y emmener tout doucement, avec amour. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment produire ces fruits? Comment avoir un jardin luxuriant? Et la réponse, Jésus en parle beaucoup dans Jean 15 et Jean 17. Il utilise ce terme « demeurer dans son amour ». Si vous demeurez en moi. Et dans Jean 6, 20, verset 28 à 29, les disciples demandent à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Qu'est-ce que Jésus leur répond? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus ne dit pas l'œuvre de Dieu, c'est que vous soyez plus purs, c'est que vous priez plus, c'est que vous fassiez des choses. Non, il dit l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement que vous croyez qu'il m'a envoyé, je suis là. Et dans Jean 15, il dit, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Vous voyez, à chaque fois ces deux points sont reliés, c'est porter du fruit égale demeurer dans mon amour, en fait. Et dans notre tête, il faut qu'on puisse penser de cette manière-là. Parce que souvent, il y a des chrétiens qui se lèvent le matin, ils font leur prière, ils lisent leur Bible, et puis ils ont ce poids sur leurs épaules, Et puis, il y a beaucoup d'églises qui sont comme ça. S'ils ont ce poids sur leurs épaules, il faut qu'ils produisent quelque chose durant la journée. Ou, c'est vrai, mercredi dernier, on a entendu ce message de Pasteur Texier, un super beau message sur sauver les perdus, aller vers les gens qui ne connaissent pas Dieu, leur partager ce que Christ a fait et l'avenir qui est devant nous, et aussi la crainte, les amener à voir qu'il y a une crainte à mourir sans Dieu. Vraiment ce désir d'aller vers les perdus et de leur parler de Dieu. Mais ça ne devrait pas être un poids qu'on porte. C'est pas je me lève le matin, aujourd'hui je vais au boulot et je peux voir mes collègues. Ça m'arrive des fois. Et dire ah, Seigneur, ils sont pas sauvés. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour les toucher? Dieu me demande pas de me forcer. C'est pas chaque fois que je trouverai un moyen, je vais leur glisser un verset. Je vais essayer de trouver un plan. Non. Ce qui importe à Dieu en premier, c'est surtout de savoir aimer. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que j'en suis convaincue? Des fois on le dit, mais on n'en est absolument pas convaincu. C'est simple, on ne peut pas porter de fruits si on n'est pas connecté à, si on n'est pas connecté à la source, si on n'est pas connecté à Dieu. En psaume 127, 1 et 2, la parole nous rappelle ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'adore ce passage parce que tu dors et ça se fait. Voilà. Dieu vient, nous, on est là, on vit, on dort. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément partisans, c'est pas nous qui sommes la source pour produire. Dieu vient, il émonde, il coupe. Il sait exactement où couper, comment arranger l'arbre, comment l'arranger, revenir, arroser un peu. Et le temps qu'on réalise, il y a de beaux fruits qui commencent à sortir. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc cet après-midi, c'était vraiment ce point-là. C'est pas forcément quoi produire, mais comment être disponible pour porter ce que Dieu me donne à porter et comment Dieu va m'amener d'un point A à un point B sans que je m'en aperçoive en dormant, le fruit va sortir. Il faut qu'on ait cette assurance-là. Moi, ma part, c'est vraiment de croire Dieu, d'apprendre à faire confiance à Dieu. Croire Dieu quand Dieu dit « je t'aime d'un amour éternel ». Donc on l'a vu, hein, ce livre du Cantique des Cantiques qui parle de cet amour-là avec Dieu. Salomon, c'est le roi Salomon, c'est celui qui a écrit ce livre. Il a écrit cette poésie, on va dire, qui raconte un peu son histoire, mais que Dieu utilise pour illustrer notre histoire avec Dieu. Et sur les 1500, et il a composé 1500 poésies. Et pourquoi ce livre est appelé le Cantique des Cantiques? C'est le meilleur des cantiques, en fait. C'est la plus belle histoire d'amour. C'est pour ça qu'il est appelé Cantique des Cantiques. Et en recherchant un peu dans les commentaires bibliques, ce livre est décrit comme l'appellation Cantique des Cantiques rejoint d'autres appellations qu'on retrouve dans la Bible, comme par exemple le Saint des Saints. C'est-à-dire le lieu très saint. Et aussi, on a cette expression, le roi des rois, c'est-à-dire celui qui est encore au-dessus. Donc, ce livre qui est dans la Bible, pour nous, c'est vraiment le livre qui est au-dessus, qui parle d'une réalité spirituelle au-dessus de toutes les autres. Nous sommes aimés, nous sommes sa bien-aimée. Et aussi, une autre chose que les commentaires disent, c'est que les Juifs, lors des fêtes de Pâques, lisent ce livre, le Cantique d'Élise, à chaque fête de Pâques, il lit ce Cantique des Cantiques et il appelle le Saint des Saints. Donc ce livre est appelé le Saint des Saints. Tout ça pour nous dire que Dieu intentionnellement l'a écrit, c'est une lettre d'amour pour nous. Et il faudrait qu'on prenne le temps de le lire. C'est pas forcément le livre qu'on va prendre dans la Bible et lire, on va plutôt aller peut-être vers les évangiles, les épîtres et tout ça, ce qui est bien. Mais de temps en temps, se rappeler, lire le Cantique des Cantiques et s'imprégner de cette pensée que Dieu a pour nous, tu es ma bien-aimée. Et tu porteras du fruit, pas parce que tu vas courir, mais parce que je le veux et c'est mon plan pour toi. D'accord? Et tout le long du livre, on voit le bien-aimé utiliser une série de qualificatifs pour décrire cette bien-aimée. Donc, il y a des mots comme parfaite, belle, colombe. Nous sommes des femmes, hein. On a, Moi, j'aime qu'on me dise, ah, tu es belle. Tu es belle. Des fois, on dit, ah, j'ai rien fait. Dis, ah, cette robe, elle te va super bien. On dit, ah, non, mais j'ai rien fait. Je l'ai acheté 5 euros. Parce que tout est relié. On n'a pas cette capacité, à vrai dire, même les gens les plus magnifiques sur Terre, ils ont toujours quelque chose à dire, parce que la beauté physique, c'est pas forcément de cette beauté-là qui est parlée ici. Dieu, quand il dit que nous sommes belles, il regarde pas mon visage en disant, tiens, elle a de beaux yeux, belles oreilles, beau visage. Non, pas du tout. Dieu regarde au-delà, il regarde qui je suis avec mes incapacités, mes faiblesses, et il me dit, tu es belle. Il me regarde en face et il me dit, tu es belle. Et pour chacune d'entre nous, cet après-midi, c'est vraiment ça. Et il faut qu'on le croit, parce que c'est la vérité, c'est Dieu qui le dit. Et donc, du coup, je vais lire quelques passages, quelques versets du Cantique des Cantiques, là, quelques passages que j'ai repris. 1:15 et 4:1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. 4:7. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. 6:4. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa. Et Tirsa, ça veut dire favorable, pleine de grâce, pleine de charme. 7:6. Que tu es belle, que tu es agréable. Chapitre 1, 8, 5, 9, 6, 1. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes. Cantique 2, 14. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Cantique 6, 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Et il y a un autre passage dans la Bible, pas le Cantique des Cantiques, mais que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup, que Dieu a toujours utilisé dans ma vie, c'est en Jérémie 31:3, où Dieu dit, Dieu parle et dit, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et ça, c'est vraiment ce que Dieu voudrait nous communiquer. Il nous appelle « Ma colombe », entendez sa voix, « Ma colombe »,« Ma parfaite ».« Parfaite », ça veut dire « achevé, impeccable, admirable. On est achevé, il nous voit déjà parfaite. Et il le dit dans les mots de Dieu, c'est vraiment ça. Il faut qu'on le croit. En 1 Pierre 2:9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Ça, c'est le regard que Dieu a sur nous. C'est de cette manière-là qu'il nous décrit. En Deutéronome 7:6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Nous sommes les choisis de Dieu. Nous avons une place absolument privilégiée. Et Dieu fera tout. Il fait tout, je suis sûre que vous l'expérimentez dans nos vies. Moi, ça m'arrive des fois, dans des tout petits détails, où on ne sait pas quoi faire, on réfléchit, on a une situation, et puis, ouf, la chose se règle. Dieu amène une personne sur notre chemin, ou il nous amène. Des fois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je perds un objet, j'ai perdu un objet que je cherche partout, ça peut être un stylo, ou un objet quelconque, où je suis à dire, ah, j'aimerais bien savoir où il est. Et puis pour X raison, je vais me lever et puis je vais dire, tiens, je vais juste prendre cette boîte, à la poser là. Et là, qu'est-ce que je vois? L'objet, il est là. Et c'est des fois, ça paraît comme des détails, mais c'est des petites choses comme ça qui nous montrent l'amour dans la douceur de Dieu qui vient et qui est là. On le voit pas, mais qui est quand même là et qui sait exactement des fois, c'est dans des détails comme ça. Et Dieu entend et Dieu veut nous montrer. Dieu fait des choses qui sont pas extraordinaires. C'est pas... je sais pas, une réalisation, une grande réalisation, mais c'est dans les petites choses comme ça, où Dieu intervient pour nous. C'est comme s'il voulait nous murmurer à l'oreille, tu sais, je t'aime, je suis là, hein, je suis pour toi. Et je fais partie de ta vie, je connais ton quotidien, et je sais exactement ce que tu recherches, ce que tu penses, et j'ai les moyens, et je veux vraiment te bénir. Et Dieu fait ça souvent dans nos vies. Non, c'est bien de méditer sur ces choses-là, sur cette expérience qu'on a avec Dieu. Donc, j'ai marqué là sur mon papier, c'est pour porter du fruit, il faut qu'on soit en symbiose avec lui. C'est impossible autrement. Il faut accepter son amour. Il voudrait que sa vie jaillisse de nous, et nous-mêmes aussi, on le désire que cette vie jaillisse. On ne désire que ça. Hein? Mais la solution, c'est pas d'essayer de faire des plans, trop réfléchir. Souvent, on a cette question, quelle est ta volonté, quelle est ta volonté, quelle est ta volonté. Mais vous savez quoi? Se laisser aimer va nous amener à la volonté de Dieu. Elle va se faire toute seule. Il y a un autre élément très important qui va nous encourager à porter des fruits ou à croître spirituellement, à prospérer spirituellement. C'est aussi de méditer sur l'avenir que Dieu a pour nous. On n'a aucune crainte à avoir parce que Dieu a un avenir pour nous. Il l'a déjà préparé et il nous l'a dit. Dans la parole, on voit Dieu qui nous a mis des indices ici et là, dans les évangiles, dans les épîtres. L'Apocalypse en est rempli. On sait exactement ce qui nous attend dans le futur. On n'est pas perdu, on sait où on va. Et là, j'ai relevé quelques points, juste pour nous encourager cet après-midi, de voir que Dieu a des choses qu'il a préparées pour nous. Quand on voit dans Jean 3, quand Nicodème, ce prêtre parisien qui connaissait la loi par cœur, va voir Jésus. Pardon. Il va voir Jésus parce qu'il a des questions existentielles. Il n'était pas dans un confinement, mais il avait certainement des questions sur sa vie. C'est quel est le sens de la vie, où je vais, comment vivre. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est la réponse clé qu'il lui donne. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc ça, c'est la solution. Dieu a donné son Fils. Et ça, c'est pour nous. Donc nous qui avons cru dans le Fils, la vie éternelle nous attend. C'est une garantie, n'est-ce pas? Aucun doute là-dessus. On a la vie éternelle. C'est une promesse. Dieu nous l'a donnée. Voilà, c'est fait. En Jean 14, Jésus est en train de partir... Il a préparé ses disciples, il leur dit qu'il va aller à la croix, qu'il va mourir, qu'il va devoir partir, mais qu'il va pas les laisser seuls. Qu'est-ce qu'il dit en Jean 14:2 à ses disciples, donc à nous? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, on a cette promesse-là. On a la vie éternelle. On a une place qui nous est préparée. On n'aura rien à faire. On sera avec Dieu pour l'éternité. Jésus nous prépare des demeures. En Jacques 2, 5. Écoutez, bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Il nous a préparé un royaume. Et en Matthieu 25, 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc on a un royaume qui nous a été préparé. Et la Bible dit que Dieu va faire de nous des roi et des sacrificateurs. Je veux dire, reine, cet après-midi, nous allons régner. On n'en a pas conscience dans notre quotidien, mais c'est la réalité. Nous hériterons d'un royaume. Dieu nous promet un avenir parfait dans un lieu de rêve. Il suffit de lire Apocalypse 21, et c'est extraordinaire la description du lieu où on va être. Aujourd'hui, on rêve d'aller dans des palaces. Hein, j'aimerais bien aller visiter les Champs-Élysées, voir à quoi ça ressemble. On aimerait bien aller dans tel château, mais on a un avenir qui nous attend, un lieu absolument fabuleux, un lieu de rêve que Dieu nous a préparé. Et nous allons y vivre, nous y serons. En 1 Corinthiens 2, 9, il est écrit, Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Apocalypse 21:1. Dieu nous a créé une nouvelle terre et un nouveau ciel. Apocalypse 21:3-4. Il n'y aura plus de larmes, de cris, de souffrances. Dieu lui-même sera au milieu de nous. Il est notre garantie. Apocalypse, un autre passage. Nous vivrons dans une ville magnifique, faite d'or pur, de pierres précieuses. Dieu a pris soin de nous la décrire. Donc, Apocalypse 21, je vous encourage aussi. C'est un autre livre à lire qui est très, très bon. Et il est aussi écrit au verset 13, une ville éclairée par la gloire de l'agneau. Donc, plus besoin de lumière naturelle, parce qu'il n'y aura plus de nuit et il n'y aura plus de crainte liée à la nuit. D'accord? Et il est écrit aussi, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Voilà, ça, ce sont les promesses à venir, les choses que Dieu a préparées pour nous. Apocalypse 1, 5, 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'était Exode 19, 6. Donc, on a de belles promesses. On a la vie éternelle, on a une demeure qui nous attend, on a un lieu magnifique, fabuleux qui nous attend. Nous régnerons avec Christ. Donc, il faut qu'on se nourrisse de ces choses-là aussi. Non seulement nous sommes juste aimés, mais Dieu a pris soin de nous préparer un avenir, des choses fabuleuses. Quand nous traversons nos moments difficiles ici, nous sommes sur la terre pour un laps de temps. Nous avons des problèmes financiers, problèmes familiaux, problèmes relationnels. Hein, il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de counseling, on a des amis, on essaie de trouver des solutions à nos problèmes. Ne nous approchons pas à ces choses-là. On peut passer notre temps à s'accrocher à ce qui ne va pas, se lever le matin, avoir une liste de tout ce qui va aller mal dans la journée et à commencer à calculer. À essayer de trouver des réponses. Non, nourrissons-nous de cet amour-là, du bien-aimé qui est juste à côté. Des fois, on l'oublie, mais il est juste à côté, on lui parle, et lui, il est là, il sait déjà, et puis, il va nous assister. Et surtout, lui, il a un objectif. C'est pas que nous, on a nos objectifs, mais lui, il a un objectif, il veut nous voir prospérer. Une autre question qu'on va se poser, c'est quel genre de fruit est-ce que Dieu désire qu'on porte? Dieu a ce rêve, il veut nous voir porter des fruits, mais quel genre de fruit? On connaît ce passage qui parle des fruits dans les épîtres, que tout le monde connaît, dans Galates 5, 22. Hein. Quand on parle de fruits de l'esprit, tout de suite on pense Galates 5, 22, où le fruit de l'esprit est décrit par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc c'est un passage célèbre et ces choses-là nous paraissent difficiles. Nous, quand on nous parle de porter des fruits, tout de suite ce que je vais penser c'est comment... Ouais, voilà, je vais penser à tout ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 13, la liste là. Si je n'ai pas d'amour, que je fais ceci, toutes les choses à faire. Je donne mon corps à brûler, je donne tous mes biens. Souvent, quand on parle de porter des fruits, dans notre tête, on l'associe au fait des choses qu'on va faire. Est-ce que je me trompe? Dites-moi si je me trompe. C'est automatique. Quelqu'un va venir dire, est-ce que tu portes du fruit? Bah, tout de suite dans ma vie, ok, est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Pour moi, c'est ça, porter des fruits. Mais non, dans la Bible, il est écrit, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, c'est vraiment quelque chose de paisible qui sort de l'intérieur, en fait. Et il y a un autre passage dans la Bible, cet après-midi, il y a un autre passage dont je voudrais parler cet après-midi, qui vient expliquer ce qu'est Galates, c'est ce fruit qui est décrit dans Galates 5, 22. Donc, on va lire Michée 6, le verset 6 à 8, surtout le verset 8. Michée 6, 8 dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Hein? C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. Donc, tout ce qu'il y a dans Galates 5, 22, ça peut paraître abstrait. C'est-à-dire, ouais, je dois aimer, j'ai la joie, j'ai la paix, je suis patiente, j'ai la bonté en moi, je suis très bienveillante, j'ai la douceur. Oui, mais ça va s'exprimer dans cette attente que Dieu a. Comment est-ce que ça va s'exprimer à l'extérieur? Jacques aussi passe beaucoup de temps à parler de la foi avec les œuvres. Mais ces œuvres-là, c'est pas des œuvres que moi je vais produire, encore une fois. C'est vraiment, qu'est-ce que Dieu désire? Et dans ma relation d'amour avec Dieu, qu'est-ce qui va en ressortir, en fait? Il y a du fruit qui va jaillir. Et là, c'est décrit, c'est pratiquer le droit. C'est aimer la bonté. C'est marcher humblement devant Dieu. Et donc, j'ai regardé un peu les mots qui sont définis par ces différents termes. Pratiquer le droit, aimer la bonté, tout ça. Il faut savoir que Michée vivait... Ok, dans les commentaires bibliques, disent que c'était un contemporain d'Osée. Donc, Osée, il y a le livre d'Osée dans la Bible et on voit bien l'histoire, hein, comment Dieu le pousse à montrer à cette femme, aller tout le temps aller prouver cet amour-là, mais c'est encore une image de cet amour que Dieu va faire possible pour nous essayer de nous convaincre, de nous montrer qu'il nous aime. Et donc il y a Osée et Ésaïe qui vivaient à cette époque-là, et c'était une époque où il y avait beaucoup d'injustice sociale, où les gens sont retournés à l'idolâtrie, c'est moi en premier, moi au centre, et l'amour du prochain avait disparu. Et là, Dieu envoie Michée reprendre le peuple, leur dire que non, là, vous êtes riches si vous lisez le livre. Il parle beaucoup des gens qui s'assiedent sur, qui comptent sur leur richesse, qui ont tout ce qu'il faut et qui oublient de faire du bien autour d'eux, qui oublient le pauvre, la veuve, l'orphelin et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est ce que Dieu essaie de nous dire. Et c'est quand Dieu parle du fruit de l'esprit, c'est vraiment... c'est pas juste je porte du fruit, des grappes de raisin, voilà, il y a un raisin qui sort, les gens vont prendre. Non, c'est vraiment quelque chose que ma vie produit, mais que lui va produire au travers de moi, et qui va surtout, et c'est surtout pour mon prochain, des gens qui sont autour de moi. Quand on parle du fruit de l'esprit, c'est toujours des gens en face de moi, des gens autour de moi. Et donc là, Dieu encourage le peuple à retourner au basique, c'est-à-dire marcher avec Dieu et pratiquer le droit. Donc le mot droit ici, ou justice, veut dire agir de manière juste, de manière équitable dans mes rapports avec les autres. C'est les traiter de la manière dont je voudrais qu'on me traite moi-même. Et Jésus le dit souvent. Il dit, fais de même, comment il dit ça? Je sais qu'il y a un verset qui dit, aidez-moi si vous en souvenez, mais faites ce que vous voudrez qu'on vous fasse, voilà. C'est exprimé de cette manière-là. C'est faire à l'autre exactement ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est pas facile, hein, mais juste de se mettre dans cette position-là va nous aider à faire ce qui est juste. Parce que des fois, on sait pas qu'est-ce qui est juste. Quand on pense à nous-mêmes, on trouve tout de suite ce qui est juste. Quand on pense à nous-mêmes, c'est je viens de faire une bêtise et pour moi, ce qui est juste, c'est qu'on me pardonne. Vous êtes d'accord? Ok, c'est juste pour l'autre aussi. C'est exactement ça. Et donc, pratiquer le droit, il faut pas aller loin. C'est juste traiter les autres de la même manière que je voudrais être traité. Et c'est ce que Dieu appelle le mot équitable. C'est ce que Dieu définit comme le mot équitable. C'est pas d'aller juger et essayer d'analyser. Non, c'est juste, je traite l'autre comme moi, j'aimerais être traité. Il y a ce passage dans Matthieu 18, où on voit cet homme qui a une dette énorme, des millions, si on doit le transposer à cette époque-là, qui, voilà, son maître va vers lui, son maître l'appelle et lui demande des comptes, et cet homme se trouve mal parce qu'il n'a pas un sou et il doit des millions. Et donc, il commence à supplier. Il sait que la conséquence pour lui, c'est d'être jeté en prison. Mais donc, il commence à supplier. Et le maître dit, ok, je te remets cette dette. Donc, c'est-à-dire, tu n'as plus rien à payer, je te la remets. Donc, cet homme sort. et croise un autre de ses compatriotes à qui il a prêté des sous. Donc, transposons, on va dire, il a, je sais pas, peut-être 2000 euros. Et là, il demande, donne-moi mes sous. Il s'attaque à cet homme-là, donne-moi mes sous. Et pareil, cet homme est dans la même situation que lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas un sou, il ne peut pas rembourser. Ben, il n'a pas hésité une seule seconde, il l'a jeté en prison. Ben, ça, c'est exactement ce que nous faisons. Cette histoire-là nous représente, c'est que nous, on est prêts à demander pardon, à attendre ce pardon-là, même l'exiger parfois, mais dès qu'il s'agit de l'autre, le pardon a disparu. Et c'est même pas, on n'a pas de poids à porter, puisque c'est pas à nous de produire ça, mais, en tout cas, c'est l'attente de Dieu envers nous. C'est ce genre de fruit que Dieu voudrait qu'on porte. Et, le deuxième élément, c'est aimer la bonté. Dieu nous demande d'aimer la bonté. Et la bonté, c'est la grâce et la miséricorde, c'est la même signification. C'est pas juste essayer d'être bon. Il y a beaucoup de bons sur la terre. Tout le monde pense qu'il est bon, à vrai dire. Moi, si on me demande si je suis bon, je dirais jamais non. Peut-être parce que maintenant, je connais Dieu, que Dieu me révèle un peu mes faiblesses, mes erreurs, mes chutes. Ok, avec un peu d'humilité, je peux dire, oh, putain, je suis pas si parfaite que ça. Mais, à vrai dire, sans connaître Dieu, on en rencontre plein dans la rue tout le temps. Est-ce que tu es bon? Oui, je suis bon. Les gens répondent, ils te regardent dans les yeux, ils disent, je suis bon. Et ils y croient. Et s'ils sont pas bons, ils vont te dire, mais moi, je connais quelqu'un, franchement, il est très bon. Je peux t'assurer, il est bon. Mais c'est pas de cette bonté qu'il est parlé. Ce n'est pas de dire « je suis bon, je donne mon argent, j'aime les gens ». Non, la bonté dont il est parlé, c'est vraiment la personnification de Jésus-Christ au fait. Quelle est sa bonté? Ça rejoint encore la justice, n'est-ce pas? C'est la bonté. Dieu voit la miséricorde par rapport au pardon. Ça revient toujours au même point. C'est pratiquer le droit. On ne peut pratiquer le droit que si on exerce la bonté. C'est impossible autrement, les deux vont ensemble. Si je suis remplie de bonté, je vais pratiquer ce droit-là. Je vais faire justice. Mais la justice selon Dieu. Et la troisième requête ici que Dieu nous fait, c'est marcher humblement avec Dieu. Comment peut-on marcher humblement avec Dieu? C'est pas, bien sûr, en marchant tranquillement, en parlant pas trop fort. En essayant de dire à tout le monde qu'il est gentil, d'essayer de pas avoir des problèmes autour de nous. C'est pas forcément ça, marcher humblement avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu, c'est tout simplement reconnaître qui est Dieu. Est-ce que j'ai la crainte de Dieu en moi? Est-ce que pour moi, Dieu est la personne la plus haute, celui qui règne, qui a créé l'univers, qui m'a créé, celui envers qui je suis redevable? Est-ce que pour moi, Dieu, c'est cette personne-là? Chacune d'entre nous, là, c'est la première, on peut y penser. Qui représente Dieu? Qui représente-t-il pour moi? Est-ce que j'ai cette crainte respectueuse de lui? Ça peut être une crainte où j'ai peur que quelque chose m'arrive, me tombe dessus, mais Dieu, il est pas comme ça, on l'a vu tout à l'heure, il nous aime plus que tout. Mais c'est cette crainte où, quand il dit quelque chose, au fait, c'est ça, c'est Dieu parle, et si Dieu a parlé, il n'y a rien à redire. Dieu a parlé. Voilà, on est dans une pièce, le roi rentre, tout le monde se tait, tout le monde est silencieux, et le roi va parler. Et quand il parle, il met son sceau, voilà, c'est dit, c'est fait. Est-ce qu'on a cette révérence-là devant Dieu? Est-ce qu'on a cette crainte dans notre cœur? Et cette crainte va faire que la miséricorde de Dieu va être abondante dans mon cœur. Parce que je crains Dieu. Je vais vouloir penser avec lui, je vais vouloir marcher avec lui, je vais vouloir fonctionner comme lui. Et parce que je veux fonctionner comme lui, la bonté de Dieu, cette miséricorde dont il est rempli, va me remplir aussi. Et parce que cette miséricorde est en moi, je vais faire justice, mais la justice selon Dieu. Donc ces trois requêtes que Dieu nous fait, ces trois, Dieu ne demande rien d'autre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Pratiquer la justice, aimer la bonté et... marcher humblement avec Dieu. La clé, c'est ça. Juste marcher humblement avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs passages qui nous encouragent. Dans Luc 6, 36, c'est « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Matthieu 18, « Pardonnez Hein, donc, pardonnez. Là, Jésus voulait enseigner ses disciples sur le pardon et pardonner comme votre Père vous a pardonné. Jésus pousse un peu le bouchon, si on ose dire, quand il dit, il enseigne à ses disciples à prier notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et qu'est-ce qu'il dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Hein? Comme nous pardonnons, on n'en a pas la capacité, c'est vrai. Et Dieu jamais ne nous condamnera. Mais par contre, qu'est-ce qui va nous donner la capacité? Je ne sais pas si l'une d'entre vous voudrait répondre à ça ou dire qu'est-ce qui va nous donner cette capacité? Si l'une est volontaire pour nous dire qu'est-ce qui va nous donner la capacité de pouvoir pardonner, d'aimer notre prochain.
De savoir que lui m'a pardonné déjà et j'ai reçu son pardon. C'est pas mon pardon, c'est son pardon, donc je peux donner son pardon aussi à l'autre.
Mmh. D'accord, merci Marie-Hélène. C'est bien, mais il y a encore un autre point. C'était « je suis aimée de Dieu ». En fait, c'est ça la clé. C'est vrai que Dieu nous aime, pardonner comme être comme notre Père Céleste, mais Dieu, à vrai dire, il sait très bien qu'on ne peut pas, puisque la réalité est devant nous, c'est qu'on ne peut pas. Donc, qu'est-ce que Dieu requiert de nous, à vrai dire? Quand même, dans ces passages de Michée qui dit agir, pratiquer la justice et tout ça, mais à vrai dire, derrière tout ça encore, c'est « je t'ai aimé d'un amour éternel ». Ce sera toujours ça, « je t'ai aimé d'un amour éternel ». Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Et ce sera toujours ça. Donc, s'il y a une chose qu'on doit retenir, à vrai dire, cet après-midi, c'est bien sûr, c'est porter des fruits. Ça, c'est le rêve de Dieu. C'est le rêve de Dieu. Porter des fruits, avoir des fruits abondants. Moi, je rêve. Je rêve que ma vie soit comme ça quand je passe dans la rue. Voilà, j'en rêve. On en rêve tous. On en rêve toutes. Mais le problème, c'est que c'est juste impossible. Mais, Une seule chose à retenir cet après-midi, c'est le cantique des cantiques. Nous sommes aimés. Et Jean 17. Jean 17, quand Jésus s'en va, il va rejoindre son Père, la seule prière qu'il fait, et on le voit, c'est sur plusieurs versets où il prie, il fait une prière au Père. Il supplie le Père et dit, Seigneur, montre-leur notre amour, fasse qu'on soit un. Comme toi et moi, nous sommes un, qui puisse être un comme nous, qui puisse être dans cet amour-là, qu'on puisse être un. Donc, au fait, la base de tout, c'est ça. C'est vraiment cet amour-là. Si je suis établie dans cet amour-là, rien ne peut me résister. Je vais croître, je vais grandir, je vais fleurir, je vais porter du fruit, je vais bénir les gens. Pas parce que j'ai décidé de bénir les gens ou de porter des fruits. Non. Même en dormant, il va me faire porter des fruits. Pourquoi? Parce que moi, je me repose sur son amour. Et je prends de son amour et je me nourris de cet amour-là. On pourrait dire plein de choses. Si on faisait le tour là de chacune d'entre nous, on aurait plein d'idées sur les fruits qu'on pourrait porter. Il y a l'hospitalité, donner un verre d'eau. Je sais pas, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Aimer, aider quelqu'un qui est en difficulté. Penser souvent, moi je pense à ces versets-là. Prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, parce qu'en général, dans la Bible, quand Dieu parle du prochain, il va citer ces trois exemples. Parce que ce sont les gens les plus démunis. Un étranger, il est paumé sur toute la ligne, quoi. Il faut vraiment du temps. Déjà, même des années après, il reste étranger dans sa tête. Une veuve, elle a plus rien. Elle se retrouve seule. L'orphelin, alors là, il a plus personne pour s'occuper de lui. Et on ne va pas littéralement s'occuper d'orphelins, de veuves et d'étrangers, mais c'est une image que Dieu nous donne, c'est-à-dire qu'il y a des gens démunis autour de nous. Et puis aussi, dans le corps de Christ, on n'est pas des gens démunis, c'est pas écrit sur notre front qu'on est des gens démunis, mais on a tous quelque chose, un aspect de notre vie, quelque chose dans notre vie qui nous manque, où on a besoin d'être porté, supporté. Des fois, c'est des gens qui peut-être traversent la maladie ou des situations financières difficiles. Et tout ça, là, comment on peut gérer tout ça? On n'a pas la science infuse. Donc, on voit les gens, des fois, on fait au mieux. Il peut y avoir un décès, on essaie d'aider, on va dire une parole gentille. Mais ce qui est important, c'est demeurer dans son amour. Parce que quand je demeure dans son amour, Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il passait du temps avec le Père, il marchait dans la rue, et il était là, et il avait un impact incroyable. pas, c'est pas qu'il se levait le matin en disant aujourd'hui je vais guérir des malades, et puis je vais aller voir telle femme, je vais faire ci. C'est que l'esprit le dirigeait. Il se reposait dans l'amour du Père. On le voit tout le temps. Il dit je me repose en ton amour. Je me repose en ton amour. Donc sa prière pour nous c'est qu'il se repose dans cet amour qu'on a toi et moi, Dieu et Jésus-Christ. Si j'arrive à faire de moi vie, de faire de ce besoin, de fait de s'appuyer, vous m'entendez? De s'appuyer sur l'amour de Dieu. Si j'arrive à en faire mon motto de vie chrétienne, c'est-à-dire quand je me lève, ok, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai pensé à cet amour-là? Est-ce que j'ai pensé à Dieu, en pensé à mon bien-aimé, à celui qui pense à moi, tout simplement. Et dans mes prières, c'est pareil. Il y a personne qui va nous, c'est pas du forcing, c'est vraiment en porte du fruit. Parce que Dieu a déjà préparé les fruits pour nous. Et il veut vraiment, notre bien. Il nous voit déjà comme une grappe de fruits. Et tout ce que j'ai à faire, c'est nous reposer dans son amour. D'accord. Donc voilà, cet après-midi, c'est vraiment ce que j'avais à partager. C'était là mes réflexions pendant ce confinement, en réfléchissant, ok, Dieu, quel appel tu as pour moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Comment puis-je faire plus en ma vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans notre vie chrétienne? Non, tout simplement se reposer sur son amour. Et pendant que je me repose dans son amour, il va se passer des choses. Je vais aller plus loin que je ne pense moi-même aller. Et Dieu va le faire. Donc, je le crois, ça, pour moi, et je le crois pour nous tous. Je sais que ça, c'est la promesse de Dieu, il va le faire. Donc, voilà, je vais vous laisser avec ces quelques mots. Dieu a un rêve énorme pour nous. Il est inatteignable par nous-mêmes, par nos propres efforts. Il ne nous demande pas de produire, il nous demande de porter. Je me repose sur lui et je porte les grappes. Voilà, il me met les grappes là, comme ça. Et voilà, je me retrouve avec des grappes. Je peux aller partout, j'ai mes grappes, j'ai mes fruits, et les gens tout autour de moi vont se nourrir, et moi-même, je serai la première surprise. Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible? Hein? Avec une vie complètement fructueuse. Et on a de l'avenir devant nous. Tout est de notre côté. Que Dieu nous fortifie et vraiment nous visite et nous aide à vivre le cantique des cantiques, à nous nourrir de ça. Voilà, de cet amour-là.